a fordulását. Kinyílt a viola, de nem az a teljes. Visszajött édesem, de nem az a kedves.
C'est Martha Sebenstein qui est hongroise, elle, dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. C'est Onde Femme tous les mercredis de 17h à 21h. Tout à l'heure, vous aurez à 19h les coups de cœur de Marjolaine. Mais en ce qui nous concerne, nous retrouvons Alba Viotto du Comité contre le démantèlement de la loi sur l'asile pour continuer ce débat sur la revision de la loi sur l'asile et la prise de position très claire, compris un certain nombre de citoyens et citoyennes de Suisse pour s'opposer au continuel coup donné contre l'accueil que devrait être capable d'accorder à des gens persécutés dans le monde pour un pays démocratique comme la Suisse. Alors, Alba, je crois que le témoignage de personnes comme FRHD est essentiel dans cette campagne parce que les gens entendent, lisent les articles de presse, entendent les politiciens qui eux ont le verbe facile, ils ont l'habitude de causer. La parole aux réfugiés, aux requérants d'asile, on l'entend trop peu souvent et tout à coup les gens réalisent plein de choses en entendant certains témoignages.
Voilà, je crois que c'est une très bonne question que vous posez là. Voilà une campagne où l'on parle d'une loi qui a des effets extrêmement importants sur des personnes. Or, les personnes qui sont concernées par cette loi n'ont pas d'espace de parole. On parle d'eux en termes de nombre, en termes de statistiques, en termes de problèmes qu'eux posent à nous, pas l'inverse. Or, moi, je suis toujours très profondément émue quand j'entends des témoignages comme ça. Elle a dit beaucoup de choses en quelques minutes. Je trouve que c'est pour moi très, très lourd d'entendre qu'à certains moments, lorsqu'on se trouve ici, qu'on a demandé asile, on a envie de se retrouver dans la prison parce que le monde était plus convivial, finalement, dans la prison. Je trouve intolérable des personnes qui ont passé par les choses qu'elle a vécues soient finalement prises pour des personnes qui mentent tout le temps. Elles sont obligées de se justifier en permanence. Moi, je suis très admirative du courage des femmes comme Ferretti ici, qui arrivent dans un contexte à tenir le coup et à continuer à vivre et à continuer à penser au futur. Donc, je trouve que c'est tout à fait indispensable et ça a été un des soucis du comité genevois, mais aussi de tous les autres comités, parce qu'il y en a dans chaque canton, c'est trouver des espaces de parole dans lesquels ces personnes sont là comme des personnes et pas autre chose. Et où il y a des moments où c'est l'écoute de ce qu'ils disent, eux, et pas l'inverse. Donc, c'est très important.
Alors, par exemple, Alba, avec le comité contre le démantèlement de la loi sur l'asile, vous avez organisé des réunions dans des communes. Et je sais que vous avez contribué à ce que, par exemple, dans la commune qui réunit, qu'on pourrait dire, les trois chênes, c'est-à-dire Chêne-Bougerie, Chêne-Bourg et Troinet, vous avez organisé un débat qui réunissait à la fois des politiciens de la commune, des réfugiés qui sont venus témoigner, et puis, bien sûr, les habitants. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous raconter si l'échange est vif, si certains monopolisent la parole, si les gens réalisent justement comme on peut le faire en entendant parler Ferré HD, quelle est la situation? Comment ça se passe, un débat comme ça dans un quartier?
Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais dire que nous avons pris la décision au comité dès le départ d'essayer d'aller dans le plus grand nombre de communes possible. Pour pouvoir toucher le plus largement possible tout le public que nous voudrions assister. Alors, les trois chênes, c'est Tonnet et pas Troinet. Hein,
Tonnet, pardon, Tonnet, oui.
Eh bien,
comme de
ça a été la première action que nous avons faite. Nous avons travaillé avec l'équipe d'animation du centre de rencontres et des loisirs de Chêne-Bourg, où nous avons été accueillis de façon très, très sympa. Nous avons donc utilisé toutes les ressources qu'on trouve habituellement dans ces maisons de quartier, qui connaissent bien le tissu associatif et toutes les possibilités toutes les ressources que l'on peut mobiliser. Et nous avons donc eu des activités sur 3 jours au centre. Alors, tout d'abord, disons que l'information qui a été faite par le centre a vraiment été capillaire sur les 3 communes, par voie d'affichage, par voie de contact personnel, par voie de tract. Le centre a décoré vraiment tous les locaux avec des affiches du Haut Commissariat aux réfugiés, avec des visages de réfugiés. Donc, il y a eu tout un temps de préparation qui était sympa. Donc nous avons eu 3 jours. Le premier jour a été dédié aux personnes âgées qui fréquentent la maison de quartier une fois par semaine. Il y a des craintes, il y a des préjugés qui font partie de la réalité et que c'est important et c'est une responsabilité pour nous de les aborder de façon à ce que une réflexion puisse s'engager. Alors, si certaines personnes semblent très déterminées, disons, à voter la loi, c'était quand même très intéressant l'échange qui a pu se faire. Par exemple, les personnes ont été vraiment très attentives à ce que a dit une femme bosniaque qui est seule ici avec ses enfants et que l'on voudrait expulser, renvoyer dans son...
Je pourrais peut-être, si vous le voulez bien, Alba, citer un tout petit extrait de ce qu'elle a dit, puisque par hasard, j'en ai un extrait sous les yeux. Cette femme a dit « Je suis bosniaque, je suis venue en Suisse seule avec mes 3 enfants. Nous avons été mis au bénéfice de l'admission provisoire, comme tous les bosniaques. On n'avait plus rien, mais les choses matérielles, vous savez, quand on a vécu la guerre... Il a fallu donc tout recommencer. Mes enfants se sont très bien intégrés. J'ai accepté toutes sortes d'emplois pour être indépendante. Mais lorsque mon patron m'a licenciée, il m'a été impossible de retrouver du travail. Personne ne vous engage lorsque vous présentez votre papier où est inscrit un délai de départ dans les 3 mois qui suivent. Alors nous sommes 20 femmes divorcées ou veuves dans ce cas. C'est une situation très mal vue en Bosnie. Nous n'avons plus rien là-bas. Il y a 80% de chômage et nous est impossible de retourner dans nos maisons étant minoritaires dans la ville d'où nous sommes originaires. Alors, qu'allons-nous devenir ? Et comment réagissent les gens à un témoignage comme celui-là?
Eh bien, justement, il y a eu des questions, pas mal de questions. Et les gens découvrent. Ils ont parfois lu des témoignages de ce genre. Ils ont des informations qu'ils ont glanées par-ci, par-là. Mais je pense que lorsqu'ils voient devant eux, en chair et os, une personne... par exemple, cette personne n'a jamais été à l'assistance, comme on dit. Elle est économiste de formation, une universitaire. Ici, elle a pris des emplois de femme de ménage, d'employée d'hôtel. Et elle est toujours autonome d'un point de vue. Elle ne dépend pas de l'hospice général. Alors, quand on parle perpétuellement d'abus, je pense qu'on pourrait montrer que la majorité des personnes sont loin de commettre des abus.
Et vous avez la sensation, comme cette femme dont on parle aussi dans l'article du courrier que j'ai sous les yeux, que les gens tout à coup changent de sentiment, parce que ça touche vraiment au sentiment aussi, pas seulement à la réflexion dans la tête, mais les deux choses sont liées, que les gens changent d'avis en entendant parler. Par exemple, cette femme dit « Je dois avouer qu'au plus profond de moi existe un sentiment de peur vis-à-vis de l'étranger, étranger dans le sens de celui que je ne connais pas, de l'autre, et le témoignage de cette femme bosniaque a créé un contact, un lien entre nous et elle,
absolument,
qui fait qu'aujourd'hui, sa douleur devient un peu la nôtre et qu'elle absolument devient moins étrangère pour nous.
Absolument. Je crois que ça, c'était une enseignante qui a pris la parole là, et c'est évident. C'est que face à des témoignages, face à des personnes en chair et os, il n'est pas possible de prendre des voies parallèles, de ne rien voir, de ne rien entendre. On se trouve. Et puis surtout, je pense, en tout cas, que on s'identifie dans ce sens-là. On se dit que cela pourrait m'arriver à moi. C'est par hasard que je suis ici dans un pays sûr, hein. Mais je pourrais être ailleurs et puis dans la même situation. Personnellement, je pense que l'aide de ces personnes pour faire est extrêmement précieuse pour que la loi ne devienne pas simplement quelque chose de complètement désincarné.
Alors, lors de ces débats, Alba, il y avait aussi des représentants des partis. Les politiciens sont là. Alors d'abord, peut-être, peut-on situer rapidement quelle est la position des partis à l'heure actuelle face à cette loi? Qui est pour, qui est contre? Comme ça.
Bon, actuellement, les partis de gauche prônent le non, s'y opposent. Les démocrates chrétiens, dans une assemblée d'il y a quelques jours, ont majoritairement voté pour la loi, et donc le Parti libéral, je n'ai pas lu quel a été le résultat de leur assemblée, mais ils vont voter
pour la loi, ça c'est sûr. Ben,
voilà, être pour la loi, et Parti radical également. Donc l'idée d'avoir des personnes engagées en politique, et en particulier des personnes de la commune, moi ça m'apparaît une piste extrêmement intéressante. Car les gens se connaissent, les communes sont petites. Et que donc il en résulte un face-à-face, on a vu des choses assez extraordinaires. On avait des citoyens, des citoyennes poser des questions et dire à un élu, mais c'est pas du tout ce que vous dites.
Donc les gens se remettant en cause les représentants politiques.
Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes jamais allé voir où ils sont logés. Donc il y a des choses extrêmement... et il me semble qu'il y a une dynamique extrêmement importante et démocratique aussi. Je crois très profondément que la démocratie, c'est une dynamique. Et qu'il est trop commode de simplement donner le pouvoir à des politiciens. Je pense qu'il appartient aux citoyens de dialoguer avec et de ne pas leur donner des chèques en blanc. Donc de les interpeller. Il faut créer ces occasions-là. Là, je crois que les personnes qui étaient présentes ont considéré que c'était positif, cet échange. On a également vu des élus qui ont dit publiquement, ça, moi je rends hommage, ce n'est pas si simple que ça, qu'ils voteraient contre
l'avis de leur parti.
L'avis de leur parti pour des raisons éthiques. Et je crois qu'il faut. Ce terme éthique est très important dans une campagne comme ça. Il y a des aspects éthiques. Donc il va falloir choisir par rapport à des valeurs éthiques. Donc ça interpelle à niveau. Et puis nous avons eu des retombées après. Par exemple, pour une soirée qui était particulièrement dédiée aux femmes, où il y avait aussi d'autres témoignages, c'est extrêmement intéressant parce que nous avons eu par la suite beaucoup de téléphones de personnes qui ont dit « Mais nous, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» C'est très important. D'autres ont téléphoné à Camarada,
qui est donc ce lieu d'accueil pour les femmes réfugiées.
Un centre d'accueil pour les femmes réfugiées ici. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé après. Et puis, par la suite, l'équipe de Schoenbourg, Catherine, m'a dit, écoute, je crois qu'après ça, il faut pas que ça en reste là. Donc, maintenant, chaque fois qu'on organise une fête, on va inviter 3, 4, 5 réfugiés. Si c'est une manifestation de jeunes, ben on invitera des jeunes. Sinon, ce sera d'autres choses. Et donc, on va les mettre en contact avec des foyers de regard, les responsables, de façon qu'ils puissent faire l'invitation. Et ça, c'est un premier stade. Quand elle dit qu'elle devait parler aux fleurs, parce que...
Elle n'avait personne à qui déléguer.
Absolument. Je crois que c'est tout un travail de ce genre et qui va au-delà de la votation. C'est de s'apercevoir qu'il y a des choses que l'on peut faire, que ces choses sont parfois semblent banales quand on les fait, hein, mais qu'elles sont extrêmement importantes.
Je crois que vous avez dit une chose très importante, Alba, c'est que les gens doivent réaliser que dans une question comme celle-là, toujours en matière de citoyenneté, mais plus que jamais dans une situation comme celle-ci, on ne donne pas de chèque en blanc aux politiciens.
Non,
et
jamais.
Ça, c'est même si certains,
en démocratie,
ont l'air de dire que c'est inadmissible qu'on soit toujours en train de remettre en cause les décisions prises par les politiques.
Voilà, mais c'est ce que quelqu'un a dit ce soir-là. Et je pense que c'est grave de dire ça. Hein. Cette personne, justement, a eu l'heure de dire que, en fait, les citoyens qui lancent des référendums sont des empêcheurs de tourner en rond. Et que ça également, il faut protester très vivement contre ces attitudes. Moi, je n'aime pas tellement les étiquettes, mais là, j'ai envie de dire que ce sont des attitudes fascistes. C'est comme ça que le fascisme impose ses lois.
D'autant plus dans un moment où on se rend compte qu'il y a le fossé entre les habitants, parce que je crois que ça va au-delà des citoyens, c'est-à-dire que c'est pas seulement les gens qui ont le droit de se prononcer sur le fonctionnement, ne vont pouvoir voter sur cette loi que les citoyens et citoyennes suisses, évidemment. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants en Suisse sont très choqués par l'attitude du gouvernement suisse en matière d'asile, et on sent que le fossé s'écarte et se creuse de plus en plus, et que qu'est-ce que vont faire les citoyens, ils m'ont resté comme ça, les bras croisés, à dire on n'est pas d'accord, mais à ne rien faire. Ça, c'est vrai que, heureusement, il se trouve des gens comme vous, comme le comité, comme beaucoup de citoyens qui pensent qu'il faut agir, même si les autorités font autrement et qu'on n'a pas à suivre comme des moutons.
En démocratie, les citoyens ont des moyens de faire les choses. Heureusement, c'est ce qui fait la différence justement entre une démocratie et une non-démocratie. Le droit de référendum, le droit d'initiative sont tout de même fondamentaux et il faut les utiliser. Je crois que ça c'est très 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 important. Et puis il faut aussi qu'il y ait dans le domaine de l'éducation, je veux dire des changements. Je pense que il il faut par exemple que les gens comprennent bien que tout ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime. Et quand les choses ne sont pas illégitimes, quand elles ne sont pas légitimes, eh bien, je pense que alors là, c'est en âme et conscience qu'il faut prévoir la suite. Il ne faut pas prendre ses responsabilités. Hein. Si c'est illégitime, on a la possibilité de ne pas obéir. Et par moments, je pense le devoir de ne pas obéir.
Je crois que là, ce sera notre mot de la fin pour aujourd'hui, Alba FRSD. Nous allons juste prendre encore un petit moment pour donner des rendez-vous encore, mais on va finir sur cette présupposition très importante. Je crois que chaque personne doit se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas important de désobéir quand on n'est plus d'accord avec ce que les responsables politiques décident. Voilà. Nous écoutons encore pour conclure une musique que nous a amenée FRSD. Tout à l'heure, FRSD, nous avons entendu une flûte très prenante avec des sons très aigus, des sons graves. Cette fois-ci, c'est une sorte de viol. Tout ça, c'est la musique traditionnelle de l'Iran.
Oui, et il s'appelle Kamanche. Et c'est un joueur qui s'appelle Bahari. Il joue cette Kamanche. C'est une musique traditionnelle.
Quel paysage va avec cette musique pour vous, FRSD ?
Paysage de l'Iran.
Qui sait comment ? Décrivez-nous parce qu'on ne connaît pas.
Paysage de mes enfants, ma famille, ma langue maternelle.
Vous nous dites
La vie.
Comment on dit la vie en persan ?
Zindagi.
Merci, FRSD, de votre témoignage.
Je vous en prie.
Alba, vous avez quelques rendez-vous à nous proposer, qu'il serait important que chacun note quelque part dans la suite pour les jours à venir et d'ici au 13 juin.
Voilà, alors il y a un programme vraiment très riche qui situera dans différents quartiers. Je vais donner ceux de cette semaine et vous les trouverez de toute façon régulièrement sur la presse genevoise. Ce vendredi, à la Traverse, Sarclos donne un concert au profit de cette campagne. Donc, on espère que beaucoup de monde convergeront vers la Traverse et passeront une soirée conviviale.
Tout le monde adore Sarclos.
Voilà, tout le monde l'adore. Et également, beaucoup de gens ont un grand respect pour lui, pour ce qu'il est et pour ce qu'il défend. Et donc nous invitons les gens vraiment à s'y rendre. Le samedi 8 mai, nous serons à Meyrin, sur la place des Continents. Nous aurons un stand d'information, il y aura de l'animation.
Donc dans le cadre d'une grande manifestation.
Oui, une quinzaine particulièrement centrée sur les mines antipersonnelles. Donc nous avons un stand qui sera consacré à l'asile. Par la suite, pour donner justement un espace de parole à des réfugiés, nous avons fait publier un recueil de poèmes qui ont été écrits par des personnes qui ont demandé l'asile ou ont transité par la Suisse à un moment ou un autre. Certains sont encore en Suisse maintenant. Nous faisons le lancement mardi et par la suite, ce livre est en vente en soutien de cette campagne. Je pense que vous en entendrez parler plus la semaine prochaine parce que l'une des personnes qui a donc un poème, elle désire le lire à l'antenne. Et donc nous espérons aussi que beaucoup de personnes l'achèteront, le liront. Et ce sont des poèmes témoignages, la plupart, justement.
Et ils seront lus en direct le 15 et 16 mai. Vous m'avez donné ce petit papier.
Voilà.
Le 15 et 16 mai à 20h30 voilà. Au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Voilà, ça c'est alors autre chose. Ce sont des écrivains en prison. Et donc il y a des comédiens d'ici qui vont lire cela, oui. Ça, c'est ouvert, c'est deux soirées de suite. Et tout le public peut s'y rendre. C'est très beau, les comédiens sont talentueux et la voix de ces personnes est très forte. Nous devons l'entendre.
Quant à nous, dans Remue Ménage, eh bien, Alba Viotto et moi-même, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, donc le 12 mai, pour une deuxième émission autour de cette loi sur l'asile et cette nouvelle étape de démantèlement du droit d'asile proposée par le Parlement suisse. Et nous aurons avec nous une réfugiée algérienne et une avocate membre aussi du comité contre le démantèlement de la loi d'asile. Donc nous espérons vivement vous retrouver la semaine prochaine dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. C'est tous les mercredis de 17h à 18h30 en direct. Si vous êtes intervenu en cours d'émission, ben vous pouvez nous réentendre à partir de 23h ce soir et le jeudi à 11h le matin. Merci à FRHD d'être venu avec nous aussi aujourd'hui en direct.
Et je vous en prie. Et puis, merci à vous.
Et Alba, merci de m'avoir proposé ces émissions et de m'avoir redonné l'énergie de revenir au micro. Voilà.
Merci beaucoup à vous et à toutes les personnes qui écoutent.
Mala yuko tuwa mala mbelo we got. ni donna ni chariro mo balu foli di maliden ma bala i ko to ma lambelosa wi ga ni donna koro wariro mo balu foli di maliden ma bala i ko to ma lambelomba wi ga ni donna lajinero mo balu foli di maliden ma severo ko to ma lambelo wi wi ga ni donna burginaro mo balu foli di maliden ma bala i ko to ma lambelo wi wi ga bi chei mo ne la kamere maye monena o balu ala le dure nui wi ga mo sey mo tinyala kusumuru baye monena o balu kwa kunya munima wi ga jeje ni urada lela amadu jeje ni urada lela amadu abarika kanuma wi wi ga lolo ni urada lela ali deni ni urada lela sangare ko no bay fulala kanene 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 tinya pepe mo balu sete musoye I'm gonna make you mine.